Bienvenue à la conférence Alten sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022. Je laisse à présent la parole à Monsieur Bruno Benoliel, directeur général adjoint. Monsieur, c'est à vous.
Merci, bonjour, bonjour à tous. Merci donc pour votre présence à notre dernière conférence téléphonique de l'année 2022 et qui concerne l'activité du troisième trimestre. J'espère que vous avez tous reçu le communiqué que nous venons de diffuser il y a quelques minutes. Comme vous avez pu le voir, si vous l'avez reçu, depuis maintenant près de 18 mois, la croissance de l'activité se maintient à un rythme très soutenu et stable, malgré le contexte économique et géopolitique. Globalement, les chiffres ne traduisent pas de décélération dans le dynamisme de l'activité, et ce, malgré un effet de base de plus en plus défavorable. Notre chiffre d'affaires à fin septembre s'établit donc à 2,783,2 millions d'euros, en hausse de 30,6% par rapport à septembre 2021. Il était à cette date de 2,130,4 millions d'euros. En France, l'activité progresse de 15,8%, hors de France de 38,8%. À périmètre échange constant, l'activité a progressé de façon très soutenue, à 18,8%, soit en France 13,2% et 21,9% hors de France. Les acquisitions ont contribué à 30% de la croissance totale du groupe. L'international représente désormais 68,5% de notre activité. Au troisième trimestre uniquement, notre chiffre d'affaires s'établit à 957,3 millions d'euros, en progression de 30,2% par rapport à septembre 2021. Et à données constantes, il croît de 17%, plus 10,7% en France et plus 20,3% hors de France. Le taux d'activité du groupe est resté élevé. Il était de 92,7% au troisième trimestre et donc à date de 92,7% en moyenne sur l'année, ce qui est meilleur que le taux normatif qui est de l'ordre de 92% en règle générale. Comme le taux d'activité, le turnover est resté élevé d'environ 28%. Néanmoins, nos effectifs ingénieurs ont progressé de 9150 personnes sur l'année 2022 à fin septembre, dont 5420 de façon organique, 530 en France et 4890 hors de France, le reste provenant des acquisitions qui ont représenté 3730 ingénieurs. En conséquence, alors que le groupe comptait 42300 collaborateurs à fin décembre 2021, dont 37150 ingénieurs, nous sommes 52 700 fin septembre 2022, donc 46 300 ingénieurs, répartis de la façon suivante, 10 880 en France et 35 420 hors de France. Donc les chiffres que je vous indique confirment ce que je vous disais le mois dernier lors de la réunion analyste. En fait, il n'y a eu aucun changement de tendance depuis. Aussi, de façon assez synthétique et par principales zones géographiques, je vais commenter les résultats d'activité de ce troisième trimestre. En France, sans changement, la progression de l'activité est essentiellement due au secteur de l'aéronautique civile, qui représente 27% du chiffre d'affaires, qui a progressé de 45%, et au secteur des autres industries. L'automobile, qui représente 14% du chiffre d'affaires, a progressé sur Q3 de plus de 10%. Il faut le noter parce que l'automobile en France avait peu progressé en 2022, la croissance étant réalisée en volume parce que les activités nearshore se sont fortement développées, mais assez peu en valeur. Ça porte donc la croissance annuelle sur le secteur à 7,5%. La croissance en France, comme vous avez pu le voir, a légèrement décéléré du fait de l'effet de base au troisième trimestre, puisqu'elle est de 10,7% sur Q3 et de 13,2% croissance organique sur l'ensemble de l'année. En Europe, hors de France, l'activité est en forte croissance, bien supérieure à 10%, à l'exception de la Suisse. En zone ibérique, l'activité croît de 22%. Les secteurs sont en forte croissance pour la plupart aéronautique civile, finance, tertiaire, industrie et télécom. La reprise de l'activité en Allemagne ne faiblit pas, croissance en Allemagne qui est de 23%. L'aéronautique, l'automobile et l'énergie progressent de 30%. En Italie, la croissance se maintient toujours à plus de 25% pour la troisième année consécutive. Tous les secteurs sont en progression, notamment les secteurs de l'automobile, de la finance, défense et sécurité et télécom. Au Benelux, la croissance est de 17%, essentiellement grâce aux Pays-Bas, où l'activité est en très forte progression grâce aux comptes électroniques, semi-conducteurs, énergie et équipements industriels. A contrario, la Belgique croît très faiblement. Au UK, l'activité est en forte croissance, toujours, comme vous avez pu le constater, supérieure à 25% grâce au secteur aéronautique, automobile et défense et sécurité. Enfin, en Scandinavie, zone qui était plutôt atone au premier et deuxième trimestre, la croissance a rebondi au troisième trimestre 2022 à 14,5% pour s'établir à 7,5% sur l'année grâce à une progression assez sensible dans les secteurs automobiles et poids lourds. En Europe de l'Est, sans changement, la progression de l'activité reste soutenue à près de 40% environ, grâce à la Pologne qui représente 60% de la zone et qui a cru de plus de 50%, tous secteurs confondus. En Roumanie, qui représente à peu près 40% de la zone, l'activité croît de plus de 20% grâce à l'auto et à l'énergie. En Amérique du Nord, notre activité a ralenti un peu au dernier trimestre en raison de l'effet de base, mais croît quand même de près de 21% au total. Les secteurs porteurs restent l'aéronautique, l'automobile, la finance et les télécoms, qui représentent plus des deux tiers du chiffre d'affaires. En zone Asie-Pacifique, la croissance ne faiblit pas non plus, elle est de 37%. La Chine croît de 30% essentiellement grâce à l'auto, l'Inde de 40% grâce au secteur tertiaire, semi-conducteur et auto, le Japon qui représente 12% de la zone, donc qui devient une zone significative à l'échelon de l'Asie, est en croissance grâce au secteur finance et semi-conducteur. Et enfin, Singapour croît aussi de 50%, Singapour dont la taille est à peu près équivalente à celle du Japon, grâce au secteur finance et énergie. Donc vous le voyez, la croissance est restée soutenue dans la quasi-totalité des zones géographiques, à l'exception de la Suisse où le problème est plus de nature managériale, pays qui représente un faible pourcentage du chiffre d'affaires du groupe, cela dit, 1,8%. La quasi-totalité des secteurs d'activité, logiquement, sont donc en croissance, même si leur rythme diffère. Donc, une petite analyse de notre activité selon l'axe sectoriel. L'automobile, qui représente 17,6% de notre chiffre d'affaires, progresse de 30% et continue à tirer la croissance. À l'exception de Daimler en Allemagne, tous les constructeurs sont en progression sensible. Surtout en Allemagne, justement. Donc, Daimler fait exception à double titre. Chez les équipementiers, notamment allemands, les progressions sont très soutenues. Le ferroviaire croît de 3%, toujours pénalisé par Bombardier. L'aérospace est en hausse de 50% grâce à l'aéronautique civile, essentiellement drivée par Airbus. Mais chez les équipementiers, la reprise est encore plus forte grâce aux comptes Safran, Rolls-Royce, Thales, etc. Dans le domaine spatial, la croissance est repartie, mais elle n'est que, entre guillemets, de 10%. Toutes les activités défense, sécurité et navale, qui représentent 5,5% du chiffre d'affaires, progressent en moyenne de 10% grâce aux gros donneurs d'ordre du secteur. Quant à l'énergie, secteur qui représente 9% de notre chiffre d'affaires, il augmente faiblement. En raison, alors, la croissance de l'énergie, c'est plus 3%. En raison du recul de l'oil and gas, qui recule encore de 7,5%, recul qui est lié au désinvestissement continu des majors dans le secteur, comme vous le savez, mais qui a été accentué par le retrait d'Alten de la Russie au second semestre. Russie qui a représenté, pour la partie énergie, 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Donc évidemment, l'impact n'est pas de 21 millions d'euros sur l'année 2022, mais ce sera à peu près de la moitié du chiffre d'affaires constaté en 2021. Le nucléaire, qui représente 3% du chiffre d'affaires, continue à croître de près de 5% dans un contexte de pénurie d'ingénieurs. Et le secteur des équipements pour l'énergie accélère sa progression à près de 25%. Le secteur des sciences de la vie est en croissance de près de 9%, tant dans le secteur des équipements que de la pharmacie. Le secteur des équipements industriels croît aussi de 9%, l'électronique et les semi-conducteurs de plus de 25%. Les télécoms sont en légère décroissance, à cause d'une activité qui recule légèrement chez les opérateurs, mais qui croît de près de 20% chez les équipementiers. Le secteur finance, 10,6% du chiffre d'affaires du groupe, est en hausse de 20%, surtout en Amérique du Nord et en Europe du Sud. Le secteur retail, services et secteur public est en croissance de 20%. En synthèse, hormis l'oil and gas, plus de 95% de l'activité du groupe aujourd'hui est en croissance. Et en croissance assez soutenue. Concernant les opérations de croissance externe, nous n'avons malheureusement pas d'autres acquisitions à annoncer et finaliser au cours du troisième trimestre. En revanche, Alten a signé un SPA en vue de céder les activités centrées autour d'Agile, mais ce sont des activités qui ont un business model assez spécifique et un positionnement qui, pour le groupe, n'est pas stratégique, puisque les sociétés que nous cédons, en fait, c'est un réseau de sociétés au sein du groupe, ont une activité qui consiste majoritairement à distribuer des licences logicielles, par exemple Atlassian, autour d'activités agiles et à vendre des prestations de conseil en accompagnement. C'est une activité qui s'est pas mal développée ces dernières années, mais dont le business model s'éloigne de plus en plus de celui du groupe, raison pour laquelle on a décidé de se séparer de cette activité. Donc c'est une activité qui a représenté un chiffre d'affaires de 142 millions de dollars en 2021, et qui, à fin septembre, a représenté un chiffre d'affaires de 115 millions de dollars répartis entre les US et le UK. Je pense qu'on devrait obtenir les autorisations en toute logique courant novembre, et il est donc probable que le closing intervienne fin novembre 2022. Côté maintenant acquisition, on a un certain nombre de dossiers dans le pipe qui sont maintenant très avancés, processus de due diligence qui sont terminés et les négociations de SPA sont en cours. Donc on devrait annoncer, je pense, d'ici la fin de l'année, la conclusion d'autres opérations de croissance externe. Concernant les perspectives d'ici la fin de l'année, on peut maintenant, sans prendre trop de risques, affirmer que la croissance organique sera forcément très satisfaisante. Et elle devrait être, enfin, sauf catastrophe qu'on ne voit pas venir pour l'instant, supérieure à 15% pour l'ensemble de l'année 2022. Voilà, si vous voulez bien ouvrir, s'il vous plaît, la conférence pour que les participants puissent poser leurs questions.
Merci. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question par téléphone, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Alors, nous avons une première question de Emmanuel Parot pour Gilbert Dupont. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno, si tu m'entends bien.
Bonsoir.
J'avais trois questions. La première, alors, je suis pas sûr d'avoir tout bien noté sur les recrutements du T3. Je calculais que c'était à peu près 1980 recrutements net et APC sur le T3. Est-ce que mon chiffre calcul est bon? Ok. Et donc ce qui est une belle performance. Je voulais savoir qu'est-ce que vous prévoyez sur le T4, sachant que le T3 était fort. Est-ce que vous faites passer des messages pour décélérer un peu ce rythme? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième, c'était plus sur les prix. Est-ce que tu as identifié l'effet prix sur la croissance du T3, et est-ce que tu peux nous faire un petit update sur les, sur les négos pour 2023, même si c'est un petit peu tôt dans la saison. Et enfin, ma troisième question, c'était sur la cession. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la marge de cette activité qui va être cédée, éventuellement d'une idée de son prix de cession? Merci.
Alors, donc les recrutements au T3, effectivement, c'était, enfin, recrutement net, évidemment, c'était effectivement en 1980, donc 80 en France et 1900 à l'international. Donc l'essentiel des recrutements étaient faits sur l'international. Pour Q4, je n'ai pas de prévision sur les recrutements nets à communiquer, parce qu'on n'a toujours pas fini le mois d'octobre, même si octobre a été bon en termes de recrutement. Mais j'attends d'avoir les données consolidées groupe pour pouvoir vous dire ce qu'il en sera. On n'a pas ralenti, en revanche, le rythme de recrutement. On a toujours une volonté dynamique de recrutement. Le taux d'activité reste bon. Et j'entends plus parler de pénurie ou de départ que de problématiques de staffing au sens adéquation entre les ressources et les projets. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique de recrutement fort et bon, on verra ce que donnera Q4. Pour les prix, l'effet prix, c'est quasiment impossible, enfin c'est pas que c'est quasiment, c'est impossible aujourd'hui de déterminer avec précision quel est l'effet prix dans la croissance du groupe, parce qu'il y a des effets de mix dans tous les sens et enfin, on n'est pas dans la capacité de pouvoir dire précisément ce qui provient des prix et ce qui provient des volumes. Je suis désolé, mais d'autant qu'on a des activités non seulement réparties sur plusieurs zones, mais surtout avec des modèles de reconnaissance du revenu qui sont de plus en plus complexes à mesure que les work packages se déploient et se développent. Donc, ce qu'il était possible de pouvoir calculer quand le groupe était très majoritairement en consulting, c'est aujourd'hui plus possible de le faire. Après, on a une appréciation enfin, une évaluation de l'appréciation d'un certain nombre de grilles de tarifs chez certains clients, mais ça ne permet pas non plus d'en tirer des conclusions suffisamment précises pour vous donner un chiffre qui soit fiable. Tant entendu qu'il y a aussi des effets de mix sur la composition du staff, puisque la reprise de la croissance s'est accompagnée d'une légère juniorisation. Donc en plus, il faudrait dépolluer l'évolution des tarifs de la juniorisation qui a tendance à faire baisser tendanciellement les prix, puisque ça a un effet positif sur les salaires, mais ça a aussi un effet sur les prix. Et donc tu comprends que finalement, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, bien malin qui peut donner une réponse qui soit suffisamment structurée et fiable pour pouvoir l'identifier. Concernant la société qu'on a cédée, c'est une société, enfin, c'est un groupe de sociétés dont la marge moyenne est au niveau de la marge moyenne du groupe. Donc elle n'est ni beaucoup plus rentable, ni moins rentable, c'est au niveau de la marge moyenne du groupe et on ne communiquera pas sur le prix de cession.
Ok, merci pour ça, Bruno.
Je t'en prie.
Merci. Nous avons une prochaine question de Grégory Ramirez pour Brian Garnier. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. J'aurais deux questions. La première, pour rester sur la cession, est-ce que tu considères qu'il y a encore des actifs non encore aujourd'hui dans le groupe? Et la deuxième question, c'est pour essayer de comprendre, disons, le niveau de croissance organique qu'on peut espérer sur l'année. Clairement, plus que 15%, c'est une évidence, mais compte tenu du U17 sur le T3, et si c'est plus 15 sur l'année, ça veut dire plus 10 sur le S2. Donc, j'imagine que quand même, on sera sûrement plus proche des plus 17 que des plus 15 sur l'année. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, concernant la cession, non, enfin, on a, enfin, la cession de cette société, en fait, elle s'est faite quand on a mené une réflexion. On est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux céder quand on a mené une réflexion approfondie sur l'évolution des métiers d'un certain nombre de nos sociétés dans le groupe. Et c'est vrai que cette activité a pris des proportions assez importantes. Comme on est en IFRS 15, vous ne pouvez pas voir ce que représente la vente de logiciels. Mais si on était sur une norme comptable différente, en fait, vous rendriez compte que la vente de logiciels, c'est aujourd'hui pratiquement 40% de l'activité de cette société-là. Et on n'est pas un distributeur de logiciels. Quand cette société est rentrée dans le groupe, c'était une activité qui était assez mineure. Mais c'est une activité qui marche bien et qui surtout est le prétexte et même le fondement du développement, puisque derrière, ils vendent énormément de prestations liées justement à la mise en œuvre de méthodologies agiles, essentiellement d'ailleurs dans le domaine de l'IT. D'autres activités dans le groupe qui seraient non stratégiques, aujourd'hui, dans le portefeuille d'activités du groupe, on n'en voit pas. Il n'y aura pas d'autres cessions. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres projets de cession de d'autres sociétés du groupe. Pour répondre précisément à la question. Concernant le niveau de croissance organique, j'ai dit que sur l'année 2022, il serait supérieur à 15, strictement du reste, mais je n'ai pas dit qu'il serait de 15. Donc effectivement, selon la fourchette de croissance organique du Q4, on peut imaginer que le CA annuel, il sera supérieur à 15 et il peut effectivement atteindre 17. C'est pas une hypothèse, c'est une hypothèse qui est plausible.
Okay, très bien, merci beaucoup.
Merci. Nous avons une prochaine question en anglais de Aditya Budavarapu pour Bank of America. C'est à vous.
Oui, merci beaucoup de prendre ma question. Première question que j'avais posée, je pense que vous avez dit que vous aimeriez avoir un recrutement de plus de 40 000 ingénieurs d'ici la fin de l'année. Donc, est-ce que ça va être possible? Comment est-ce que cela va impacter les résultats de 2023 et la croissance? Deuxième question, par rapport à nos différents clients, pensez-vous qu'il y aurait des changements ou en tout cas des inquiétudes de la part de nos clients quand il est à l'évolution en 2023? Et ensuite, la deuxième moitié de notre marge, est-ce qu'on peut s'attendre en fait à une marge similaire pour la fin de l'année? Je vous remercie.
Peut-être il serait plus pratique d'échanger directement en anglais avec Aditya, parce que je ne suis pas sûr d'avoir correctement compris la première question, dans la mesure où je ne crois pas avoir parlé de 40 000 ingénieurs recrutés sur l'année. Donc si Aditya peut répéter cette question, ça me permettrait d'y répondre de façon précise. Concernant les marges, on a communiqué sur le fait que le premier semestre avait été un semestre exceptionnel en termes de marge et que le second serait un semestre avec une marge opérationnelle qui serait nécessairement plus faible. J'avais donné d'ailleurs une fourchette de marge. J'avais dit, je crois, que notre marge du S2 serait probablement comprise entre 10,2 et 10,5, il me semble. Et donc, on maintient cette fourchette de marge. On verra à la fin de l'année quelle sera la marge définitive. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera plus de 10% de marge opérationnelle d'activité sur l'année, sur le second semestre 2022. et donc par voie de conséquence, une marge annuelle qui sera forcément supérieure, même bien supérieure à 10,5%. Donc si vous pouviez demander à Aditya de réexprimer sa première question, ou peut-être lui permettre de la poser en anglais, ce sera probablement plus simple pour moi pour la comprendre et pour y répondre.
Hi. So just to repeat the first question, I think you said you had a target of reaching...
Of reaching 40,000 engineers, you
given
mean?
Given that might be a bit difficult right now, how do you think that might impact growth in 2023? And the other question I had was, based on your conversations with clients, are you seeing any change in demand because of any concerns around the macro environment? Thank you.
Okay. So we currently have 46,300 engineers, so far above 40,000, but we will not reach the 50,000 engineers by year end. That is for sure. We hope we will reach that number, of course, during H1 2023. Now, regarding the outlook for 2023, it's much too early to say what's going to happen and what will be the embedded growth, which will depend upon the end of 2022. I mean, how many people we will add during Q4, and also what will be the attrition of the engineers at your end. So in January, I will give more information regarding the embedded growth, which unfortunately I'm not able to do now. And now regarding the demand, it remains strong, to be frank. There is no deceleration regarding the number of bids that we receive, nor the time our customers need to make their decision when we answer a bid. We do not see any declining staff turnover either, which is normally a sign also of deceleration, and the activity rate remains high, which is also a sign of high demand. The only perhaps vertical where we see a slight declining in the demand, but which remains high, however, is the finance sector in some countries. But that's all.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions en français ni en anglais. Mesdames et messieurs, pour rappel, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Merci. Nous avons une prochaine question de Déric Marcon pour Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Salut Bruno. Merci de prendre ma question. J'en ai deux, s'il te plaît. Le premier, c'est sur le Nestaf Air in France, les plus 80. Est-ce que c'est un niveau que tu juges satisfaisant? Est-ce que c'est un peu impacté par un taux de staff attrition qui serait plus élevé que la moyenne groupe à 28%? Donc en gros, est-ce que malgré tous tes efforts pour avoir des recrutements bruts plus élevés, le bénéfice a été bien amputé par un niveau de staff attrition peut-être plus élevé? Enfin, essayer de comprendre la dynamique en France, parce que 80, c'est évidemment pas, tu nous as habitués à faire mieux. C'est pas non plus mauvais, mais on a déjà vu mieux chez Alten France. Et ma deuxième question, c'est sur le momentum dans l'automobile. Est-ce que tu, donc avec la reprise en France et puis les très bons taux de croissance que tu vois chez les suppliers et la plupart des constructeurs allemands, est-ce que tu sens que ça, c'est quelque chose de sustainable comme trend, ou est-ce qu'il y a un rush en fin d'année mais il y a beaucoup d'incertitudes? C'est pas parce qu'il y a ce rush en fin d'année 2022 que forcément ça continuera en 2023. Comment tu vois les choses évoluer côté demande dans le secteur automobile?
Bah, Alors, bon, juste sur le Nest, alors en France, on a les deux effets, c'est-à-dire on a un turnover qui est élevé, qui est un peu au-dessus de 30% sur la France, donc qui n'aide pas, mais on pilote aussi un taux d'activité qui est de l'ordre de 92-93. Ça veut dire probablement que on a insuffisamment recruté, et notamment je sais qu'il y a des projets EDF pour lesquels on n'arrive pas à staffer dans le nucléaire. Donc on a clairement un déficit de recrutement qui est lié à un turnover plus élevé et à des difficultés de recrutement sur certains secteurs. Je ne sais pas combien on aurait pu faire si la situation avait été différente. On aurait peut-être pu doubler ou voire tripler le chiffre, mais sûrement pas faire une croissance de 500 ingénieurs. Ensuite, sur le momentum dans l'auto, pour l'instant, et quand je discute avec des managers qui soient français, italiens, allemands, voire aux US, il n'y a pas de décélération et ils n'anticipent pas de baisse de la demande. Alors, est-ce que c'est soutenable des taux de croissance de 30% sur 2023 ? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que les Allemands qui investissent énormément, on a des taux de croissance importants, mais parce que les taux de comparaison étaient faibles en Allemagne l'année passée, ça a redémarré un peu plus tard, et donc par voie de conséquence, on aura des bases de comparaison beaucoup plus élevées, donc on aura nécessairement une décélération du taux de croissance nominal l'année prochaine, en tout cas sur l'Allemagne dans l'automobile. En France, il y a un certain nombre de projets qui sont réalisés en France aujourd'hui parce que impossible à offshorer ou à nearshorer, mais quand même l'essentiel de la croissance en volume avec les constructeurs français et en partie, enfin les deux d'ailleurs, s'est faite sur le nearshore et ils ont des objectifs de gains de productivité très ambitieux pour les 2-3 années à venir. Bon, au UK et aux US, ça tient bien. Donc, un taux de croissance dans l'auto de 30% en 2023, forcément non, pour toutes ces raisons-là, mais on devrait continuer à faire de la croissance, j'espère en tout cas l'année prochaine, dans le secteur auto. Bon, secteur qui, comme tout le monde le sait, a des enjeux techno qui sont extrêmement importants et qui finalement sont à assez court terme.
Top. Et juste un petit point technique, parce que j'arrive pas à réconcilier les deux, mais c'est probablement que j'avais pas chopé les bons chiffres à fin juin. Le 1980 de net staffing sur Q3 pour l'ensemble du groupe, ça colle bien. Enfin, est-ce que tu peux redonner les effectifs que tu avais à fin juin, Total Group, si tu les as, bien sûr, sinon on fera ça off.
Non, je les ai. Les effectifs ingé à fin juin, ils étaient de 43 650.
Bah ouais, mais si tu fais 43 650, qui est le chiffre que j'avais, et tu reprends le... T'as donné quoi, 46 300 ?
Mmh. Oui, mais on a consolidé deux sociétés qui ont été acquises au premier semestre, et ça a représenté un volume de 670 ingénieurs.
Mais elles sont sur le... à partir de juillet, c'est ça, dans le scope ?
Elles
rentrent dans le compte de...
Exactement.
Elles n'étaient pas dans 43 650.
Non. Alors bon, d'ailleurs, dans ces deux sociétés, il y en a une qui est une société américano-indienne ou indo-américaine, appelons ça comme on veut, qui fait un peu moins de 400 personnes. Et il y a la société Methods qu'on a acquise au UK, qui en fait a été consolidée et entrée dans le périmètre au 1er juillet avec 285 ingénieurs, mais en réalité, ça ne comprend pas les pas loin de 500 contractors que cette société emploie de façon pérenne d'ailleurs, et qui font partie du modèle parce qu'on est au UK. Donc je ne communique pas sur les sous-traitants parce que ça ne fait pas partie du modèle du groupe et que leur volume est assez stable dans le temps, n'est pas très important dans le groupe Alten, mais chez Methods, c'est quand même un élément important à prendre en compte, parce que cette société est aujourd'hui sur un train de chiffre d'affaires de l'ordre de 120 millions d'euros, et en fait, ce n'est pas avec 285 ingénieurs qu'on fait un chiffre d'affaires aussi élevé.
Ah, très clair. Et ça, donc les 500 contracteurs, ils ne sont pas dans les 46 300 de fin septembre?
Non, non, non.
Okay. Ok, top. Merci beaucoup. Félicitations.
Mais je t'en prie.
Merci. Nous avons une prochaine question de Nicolas David pour Odo BHF. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. J'avais deux questions de côté. Une, c'était pour revenir sur la France, parce que il y a quand même un petit ralentissement de la croissance organique d'uranium en séquentiel. Alors, j'ai raté le début du call, donc peut-être que j'en ai déjà parlé, mais est-ce que c'est uniquement lié, peut-être effectivement, du coup, on en a parlé là, aux difficultés de recrutement net, ou est-ce qu'il y a quand même eu des effets techniques qui font que la croissance se ralentit un petit peu? Il y a aussi peut-être l'effet calendaire, je sais pas, une nouvelle fois j'ai raté le début du call, donc peut-être que, est-ce qu'il y avait un effet calendaire négatif en France, notable, donc c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est sur le ralentissement observé, le léger ralentissement observé dans le secteur financier, quel en est la raison a priori sous-jacente?
Alors déjà dans le secteur financier, effectivement, il y a un petit ralentissement dans certains pays, mais ce n'est pas général. La raison, j'imagine que les banques, dans le contexte actuel, certaines ont décidé de réduire leurs investissements, ça doit être une décision de gestion interne. Concernant maintenant la France, alors oui, il y a un effet calendaire qui est de moins un jour sur Q3, il y aura aussi moins un jour d'ailleurs sur Q4, ce qui fait qu'au total en France, on aura moins un jour ouvré sur l'année avec moins deux jours ouvrés sur S2. Bon. Donc effectivement, tu as raison de le souligner, ça a une incidence sur le taux de croissance de la France. Parce que un jour ouvré sur un semestre, sur un trimestre, pardon, surtout sur le troisième trimestre, ça fait à peu près, ça fait à peu près 1,5% de taux d'activité, enfin de taux de croissance, pardon. Cela dit, en France, la croissance est tirée majoritairement par les comptes, par l'aéronautique. Les autres secteurs d'activité sont en croissance, mais moindres. Donc en fait, ce que ça traduit, c'est un essoufflement de la croissance, apparent, hein, nominal bien évidemment, puisqu'on est sur du séquentiel, dans l'aéronautique.
Oui, je comprends bien. Donc il y a un petit peu d'effet calendaire et un petit peu ce côté où l'aéro est en train de finir sa période de recovery. Et pour notre culture, au niveau de l'aéro en France, par rapport au niveau pré-Covid, vous êtes à quel volume actuellement?
On est 10% au-dessus.
Ouais. D'accord, non, mais c'est très clair. Merci beaucoup.
Merci. Nous avons une prochaine question de Laurent Dor pour Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, merci. J'ai quelques petits points. Bonsoir, Bruno. La première question, c'est sur la déconsolidation de ta session. Tu comptes la déconsolider sur l'ensemble de l'exercice ou juste sur décembre? Également, est-ce qu'il faut prendre en compte une plus-value? Et j'entends que tu n'as pas donné le prix de cession, mais est-ce que nous, on peut tabler sur un prix de cession qui n'est pas très éloigné des prix des acquisitions réalisées par Alten en général? Et après, j'ai deux follow-up.
Alors, la déconsolidation, techniquement, elle sera opérée à la date de cession. Donc, je pense à fin novembre, ce qui veut dire qu'on aura 11 mois d'activité dans les comptes pour cette société-là, à moins qu'on simplifie les choses et qu'on déconsolide au 30 septembre. Mais il y aura à minima l'activité jusqu'au 30 septembre et je pense l'activité jusqu'à fin novembre si le closing intervient fin novembre. Donc pas de déconsolidation rétroactive. Le montant de la plus-value, il sera communiqué le moment venu, je ne sais pas si on le donnera dans le détail. De toute façon, c'est une plus-value de consolidation. Donc, ça permet d'avoir, je dirais, l'incidence comptable dans les comptes conso, mais en réalité, ce n'est pas la plus-value économique qui sera réalisée sur cette société-là. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.
C'est une boîte que vous avez achetée ou c'est un business qui avait été développé en interne que tu revends?
C'est des sociétés qu'on avait achetées. Enfin, pour l'essentiel, ce sont des sociétés qu'on avait achetées. Pas toutes, mais pour l'essentiel, oui. Cela dit, acheter ou créer, il y a quand même une plus-value dans les comptes. Et enfin, la question, c'était quoi sur le prix, c'est ça? Sur les multiples?
Oui, les multiples, oui.
Non, on a vendu sur un multiple supérieur à ceux qu'on pratique quand on acquiert.
Ok, parfait. Alors, autre petit point, est-ce que tu pourrais nous rappeler les entrées en consolidation cette année des quatre acquisitions?
Alors, les entrées en consolidation des quatre acquisitions, je vais les reprendre une par une et vous dire précisément. Alors, la première, Clever Task, en Espagne, on l'a consolidé, je vais te dire, on l'a consolidé au 1er avril. La seconde, Indusa, on l'a consolidé au 1er juillet. La troisième, c'est Methods au UK, on l'a consolidé au 1er juillet également. Et la dernière qu'on a réalisée, je crois qu'elle est pas, elle est toute petite et elle n'est pas encore rentrée dans le périmètre de Consou.
D'accord, l'Australie alors.
Ouais.
Donc a priori, ça rentre au T4.
Ouais, bon, il est prévu qu'elle rentre au T4, ouais.
Ok. Et dans les deals que tu espères finaliser d'ici la fin de l'exercice, en M&A, tu es sur quelques sociétés de taille relativement significative, non, ou c'est des deals comme l'Australie?
Non, c'est des petits deals. C'est des deals entre 100 et 300 personnes à peu près.
Ok. Et le tout dernier point, si on se projette sur 2023, est-ce que aujourd'hui, c'est très tôt encore, j'imagine, les discussions budgétaires commencent, mais est-ce qu'il y a une partie de ton activité, certains verticaux ou certaines zones géographiques, sur lesquelles tu as des retours tellement bullish de tes opérationnels que tu es quasiment sûr d'avoir un momentum favorable tout au long de l'année prochaine? Ou c'est encore trop tôt?
Ah non, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Enfin, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est toujours à la fois optimiste et les gens sont tous sereins. Là, il y a beaucoup de managers de discussions qui ont démarré en avance de phase pour faire remonter les tarifs de façon beaucoup plus sensible sur 2023. Même si moi, ça c'est très personnel, mais ma conviction c'est que les salaires vont, enfin la pression sur les salaires va décélérer un peu l'année prochaine. Parce que d'abord, la plupart des sociétés ne suivent pas l'inflation dans les augmentations de salaires. Si la croissance ralentit, le turnover va ralentir aussi et ça aura un effet très bénéfique sur finalement la croissance, puisque le turnover est un élément qui limite la croissance et sur les évolutions de salaire. Et puis, on voit bien que, enfin, je sais, on verra bien ce qui va se passer sur l'évolution du taux d'inflation, mais on voit bien que les prix du gaz ont rebaissé de façon assez sensible, le pétrole aussi, les matières premières, c'est la même chose. Donc, s'il y a une inversion et que le taux d'inflation baisse, il y aura des anticipations de baisse d'inflation, je pense, dans toutes les entreprises, qui vont se traduire aussi par des politiques salariales moins disantes qu'en 2022. Donc, j'espère que 2023...
C'est intéressant. Ouais. Excuse-moi, c'est le négo, tarif qui commence aujourd'hui. C'est intéressant parce que tu as des clients qui, sans doute, sont relativement pessimistes, beaucoup plus pessimistes pour 2023 que pour 2022. Et est-ce que dans tes négos, justement, ça ne rend pas les choses plus difficiles pour monter les prix ou finalement, il y a une acceptance croissante?
Non, il y a des comptes... Il y a des comptes pour lesquels on n'a pas réussi à obtenir d'augmentation de tarifs en début d'année et pour lesquels on a obtenu des augmentations de tarifs là en cours d'année, ce qui est quand même assez rare sur des référencements. En fait, les seuls qui font vraiment la sourde oreille sur les tarifs, comme toujours, c'est plutôt dans le secteur auto. Mais ça ne peut pas tenir indéfiniment parce que les salaires augmentent, on est bien obligé d'augmenter nos salaires. Donc ensuite, on peut organiser les choses différemment et développer plus l'offshore pour certaines activités, mais on voit bien d'ailleurs là, il y a des activités qu'on n'a pas pu délocaliser, qu'on a dû conserver en France, ou en Allemagne d'ailleurs. Donc je suis un peu plus confiant sur les tarifs en 2023, bien qu'on soit vraiment au tout début. D'abord, les discussions n'ont pas formellement démarré. Pour l'instant, c'est des discussions... préliminaires qui ont lieu entre nos managers qui sont en train de monter au créneau en expliquant qu'il faudra bien ajuster les tarifs en 2023, quoi qu'il en soit, et leurs interlocuteurs.
Ok, c'est très clair. Merci Bruno.
Je t'en prie.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions par téléphone. Pour mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question par téléphone, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Il semble ne plus y avoir de questions par téléphone.
Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions...
Alors, excusez-moi, Monsieur Ramirez vient de se mettre dans la liste d'attente, donc si on a le temps, on peut le passer.
Bien sûr.
Voilà. C'est à vous.
Oui, juste pour revenir sur la session, il s'agit de C-Prime. C'est bien ça le...
Oui, c'est C-Prime et les sociétés affiliées à C-Prime, effectivement.
D'accord, parce que je me souviens que C-Prime avait fait quelques acquisitions, mais c'est pas... parce que je crois que ça dépendait de c'était une filiale de Calsoft Labs, c'est ça? Mais Calsoft Labs, en tant que telle, c'est pas l'entité qui est à céder.
C'est pas l'entité qui, quoi, pardon?
Est à céder. Et c'est bien,
Non, pas du tout. C'est bien effectivement C-Prime qui a fait l'objet du processus de cession.
D'accord, très bien. Merci Bruno.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions par téléphone. C'est à vous.
Bon, mais écoutez, donc si vous n'avez pas d'autres questions. Je vous remercie d'avoir participé à notre conférence. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous, ce sera donc la publication du chiffre d'affaires du T4 qui sera, je crois, fin janvier 2023. Bonne soirée et à bientôt.
Merci, mesdames et messieurs. La conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.